Une semaine sportmédable avec Canal+. Toujours plus de sport, toujours plus d'action, toujours plus d'émotions avec les offres Canal+.
Bonsoir à tous et bienvenue dans une semaine sportmédable pour décrypter l'actualité sportive de la semaine. Pour m'accompagner ce soir, Éric Figuère en plateau et Bruno Salvé encore dans les embouteillages, mais qui va arriver. Donc on va l'accueillir en cours d'émission. Au sommaire de cette émission, du rugby avec la deuxième journée de la Champions Cup, du football avec la sixième journée de Ligue des Champions, la quinzième journée de Ligue 1, et nous reviendrons sur les Jeux Olympiques qui a été l'événement majeur de cette année sportive. Et nous terminerons comme d'habitude avec les coups de cœur de nos invités. Éric Figuère, vous êtes tout seul en plateau avec moi, donc on va commencer forcément par vous.
Quel honneur.
On va donc parler football avec vous, et donc on va démarrer par la sixième journée de Ligue des Champions qui a eu lieu la semaine dernière, où le PSG s'est enfin réveillé.
Le PSG s'est réveillé, on l'attendait forcément, hein. c'était attendu depuis le temps, même si on commençait à se poser des questions parce que le temps passait et justement le niveau de jeu n'augmentait pas et surtout les résultats n'arrivaient pas. Bon, ça y est, la victoire est arrivée, même s'il y avait eu la première victoire, le premier match contre Gérone. Mais bon, ça y est, les points sont acquis. Bien évidemment, ils sont encore 25e.
C'est ça.
Et les 24 premiers sont qualifiés. Donc, on se rend compte. Et j'ai vu passer un petit scénario qui est un peu inquiétant, qui peut très bien, dès la prochaine journée, au mois de janvier, mettre le PSG dehors. Donc, on va pas trop s'inquiéter pour l'instant. Ils ont fait un bon match ce matin en championnat. Les voyants, malgré tout, reviennent un peu au vert. Donc, voilà, j'ai envie d'être optimiste.
Alors, vous l'avez dit, si on continue sur le PSG, la prochaine journée, c'est quand même contre Manchester City. Alors, certes, City ne va pas bien du tout.
Va très mal, même.
Puisqu'ils enchaînent les défaites. Ils ont encore perdu ce matin dans le derby de Manchester. Mais on sait très bien que ce genre de match un peu entre bêtes blessées peut accoucher de tout type de scénario. Et effectivement, le PSG n'a pas le droit de perdre. Ça, c'est une certitude.
Alors, ils n'ont pas le droit de perdre, ça, c'est sûr. Jusqu'à ce matin, et le match, le derby contre United, j'étais très inquiet justement pour ce match contre City parce que justement, la bête blessée, tu as tout à fait raison, elle risquait de se réveiller contre Paris puisque City a énormément besoin de points, quasiment autant que Paris. Donc, c'était très inquiétant. Là, je suis un tout petit peu moins inquiet puisque City a encore perdu et pour avoir vu le match ce matin de bonne heure, ils ont perdu certes dans les dernières minutes, mais la production de leur jeu là est famélique, est vraiment catastrophique et je vois pas du tout comment ils pourraient se relever vu les derniers résultats et surtout vu la manière dont ils ont d'obtenir ces résultats. Et peut-être effectivement que Paris va pouvoir en profiter. Alors, on va pas trop s'avancer, mais je redeviens un petit peu optimiste par rapport à ce match-là. Et puis, par contre, après, Stuttgart, derrière, qui Stuttgart, lui aussi, jouera son batou, puisqu'il navigue dans les mêmes eaux.
Exactement.
Et donc, tout le monde va avoir besoin de points, et ça va être extrêmement chaud.
Et on sait que le déplacement en Allemagne au mois de janvier n'est jamais très simple au niveau physique et de l'état des terrains.
Absolument. Paris, même si a plutôt bien joué ce matin et a bien joué en Champions League, effectivement, cette semaine, malgré tout, il commence à y avoir des soucis dans le vestiaire. Il y a quelques joueurs, effectivement, qui sont mis de côté. Alors après, on ne va pas critiquer la gestion, bien évidemment, du coach. Mais néanmoins, il y a des problèmes. Et ça va peut-être finir aussi par se fissurer. Pour l'instant, personne ne dit rien. Mais, voilà, à l'approche des fêtes, le début d'année 2025.
Moi, je ne le lis pas tout à fait comme vous. Ouais. Que je pense que c'était effectivement sous-jacent depuis un moment. Et que le fait que l'abcès soit percé pour certains...
Qu'il ait pris des décisions, tu veux dire ?
Ça, à mon avis, voilà, on a vu un Désiré Doué très libéré ce matin, par exemple, qui était plutôt très en dedans jusqu'à présent. Il a fait le choix d'écarter Kolo Muani et Skriniar, qui se posaient des questions sur leur avenir. Bon, comme ça, ils ont un peu plus d'éléments de réponse.
C'est sûr que ces deux joueurs aussi qui n'apportaient strictement rien. Donc,
il y a le retour de Gonçalo Ramos, il y a le retour de Lucas Hernandez.
Et puis, ce qui est même magnifique, c'est que même Dembélé marque des buts. Donc, on peut être un peu optimiste. Voilà.
Bon, on va continuer à surveiller le PSG, parce que forcément, c'est un club attendu dans cette compétition qu'ils ont envie de gagner depuis longtemps. Il y en a qui sont beaucoup mieux placés. Hein, c'est le Brest et Lille qui continuent leur petit bonhomme de chemin, qui ont 13 points désormais, et qui sont, quoi qu'il arrive, d'ores et déjà qualifiés à minima pour les barrages.
N'ayons pas peur des mots, c'est extraordinaire. c'est juste leur parcours pour l'instant, quel que soit le résultat du prochain match, enfin des prochains matchs directement éliminatoires. Peu importe, leur parcours est juste magnifique. Et en plus de ces résultats, on voit qu'ils proposent du jeu, on voit qu'ils proposent un état d'esprit irréprochable. Et c'est ce qui effectivement leur permet pour le coup d'avoir des résultats. Donc vraiment, c'est admirable. Et je le dis à chaque fois, et je rapproche à chaque fois ces résultats des encadrements, des coachs, qui là sont vraiment à mettre à l'honneur. Hein, Éric Roy à Brest, qui fait un travail juste absolument remarquable. Et là, maintenant, on commence à être habitué, mais c'est juste fabuleux. Et puis Bruno Genesio, bien sûr, qui là aussi, il a été tellement critiqué, bon, notamment à Lyon, pour des raisons diverses. Mais ça reste c'est aujourd'hui une certitude, c'est des grands coachs. Et des grands coachs, quand les clubs sont bien structurés, ça amène souvent des résultats quand même.
Voilà, donc on le voit, même si pour Brest c'est un peu plus compliqué en championnat, leur parcours européen.
Ils ont fait un bon match ce matin, ils gagnent facilement, donc c'est une belle semaine, de belles victoires, à chaque fois on est surpris, à chaque fois ils remettent le couvert, on ne pensait pas non plus qu'ils gagneraient cette semaine en Champions League, et ils le font, donc total respect.
C'est ça, et donc on peut même espérer que un ou voire les deux
se
soient dans les 8 premiers.
Directement dans les 8, ah, et
ça serait quand même extraordinaire.
Ça leur éviterait effectivement les 16e, un match de barrage. Alors j'aime pas trop le terme barrage.
Voilà, oui, c'est le terme qui a été choisi par l'UEFA, mais effectivement...
L'UEFA fait pas toujours bon. Pour le coup, moi qui étais un peu sceptique, finalement j'apprécie énormément cette nouvelle formule. Donc ça c'est vraiment une très bonne chose. C'est une belle découverte. Mais bon, après, pour les termes, bon, c'est pas très grave. Mais si une des deux équipes... les deux derniers matchs vont être évidemment... vont pas être plus difficiles que les premiers, hein, puisque les premiers étaient difficiles et ils ont réussi à avoir de bons résultats.
Ils ont surtout plus rien à perdre. Ils ont déjà fait leur job. Donc ça peut permettre de jouer libéré.
Ça peut permettre de jouer libéré, mais il ne faut pas non plus qu'il y ait un peu trop de libération et un peu trop de décompression. Voilà, il y a encore du boulot à faire. Pas de raison. Voilà, encore une fois, ils sont bien encadrés.
Pour le coup, on peut compter sur Genesio et Éric Roy pour éviter la décompression.
Exactement. Et puis maintenant, c'est plus une surprise. Hein, ils ont fait du trop bon travail jusque-là pour lâcher prise maintenant. Bien au contraire, ils sont qualifiés, ça c'est sûr. Mais ils ont tout intérêt à aller chercher autre chose et ils en ont les capacités.
On a oublié Monaco qui a perdu contre Arsenal 3-0, une défaite assez logique. Hein. Arsenal a plutôt maîtrisé ce match de bout en bout.
Oui, logique à Arsenal. Il n'y avait pas de débat. Enfin, il y avait un débat avant le match, bien évidemment. On a très vite compris au bout d'un quart d'heure, effectivement, que ce serait compliqué. Bon, la défaite est logique, suivi d'un match nul en championnat ce week-end. Oui. Donc ça, c'est pas très très bon.
Mauvaise semaine pour Monaco.
Et on se rend compte que malgré le jeu proposé qui est très intéressant, ils sont trop friables derrière. Et ça leur cause des problèmes. Ça, je pense, leur enlève tout espoir de titre sur le championnat national. Alors après, pour ce qui est de la Champions League, voilà, ce sera après des matchs à élimination directe. Donc voilà, tout est envisageable. Mais il va vraiment falloir qu'ils se restructurent derrière et qu'ils se solidifient pour avoir un petit peu plus.
On le dit de semaine après semaine, mais cette équipe de Monaco est très très jeune aussi.
Elle est très très jeune.
Elle a aussi besoin d'apprendre, elle est aussi victime par moment de son inexpérience.
C'est malheureusement aussi, mais c'est aussi ça le travail, hein, c'est de réussir à équilibrer tout ça. Et voilà, si c'est pas pour cette année, alors bon, ils réussissent, hein, ils sont bien classés en championnat, ils vont être qualifiés pour les phases d'élimination directe, donc il n'y a pas de souci, c'est une très bonne saison. Mais s'ils veulent un petit peu plus, et je pense que le Rocher est quand même un peu a envie d'aller plus loin, il va falloir faire un petit peu plus.
Bon, la transition est toute faite donc avec le championnat. Donc on a parlé un petit peu de Monaco, on a parlé un petit peu du PSG qui a battu Lyon ce matin 3-1 sur un match aussi plutôt abouti, donc avec un Désiré Doué virevoltant qui était titulaire pour une des premières fois et qui a vraiment pris la place de Barcola là, en tant que titulaire qui marque le pas depuis quelques semaines. Mais voilà, le PSG a sorti une prestation vraiment aboutie ce matin, même s'ils se sont fait peur en fin de première mi-temps. Voilà, et surtout ils font la bonne opération de la journée puisque Marseille et Monaco ont fait match nul.
Absolument.
Donc ils reprennent 7 points d'avance sur ces deux concurrents qui sont deuxième et troisième.
Ils augmentent leur avance, c'est une bonne chose. Le niveau de jeu était présent, c'est une très bonne chose. Il y a encore quelques trous d'air, et on l'a vu ces deux ou trois dernières semaines. Donc il faudrait encore un ou deux matchs de ce niveau-là pour se dire que bon, ça y est, Dieu sait que le coach a prévu d'être au meilleur de la forme du Paris Saint-Germain en début d'année, et plutôt au mois de février. Mais il faut absolument qu'il fasse encore 2-3 matchs comme ça pour continuer à aller de l'avant et se présenter vraiment avec leurs meilleures armes en début d'année.
On va rapidement être fixé puisqu'il y a un certain Monaco PSG pas plus tard que mercredi matin qui va quand même donner des éléments de réponse sur l'état de forme du moment.
Ouais, je pense qu'on n'aura pas trop de surprises de toutes les manières. Ils ont battu un très bon Lyon ce matin. Sans difficulté, non, ce serait exagéré de dire ça. Mais ils sont supérieurs à Monaco. Ils sont supérieurs à Marseille, c'est malgré tout, quoi qu'on puisse en penser, la meilleure équipe du championnat de France. Donc il n'y a pas de souci, elle fera le travail cette semaine et Monaco, malheureusement pour eux, resteront derrière.
Alors, il y en a pour qui ça va un peu moins bien, c'est Saint-Etienne par exemple, qui a, j'ai envie de dire, encore perdu malheureusement contre Toulouse en ouverture de cette journée de 2-1.
Et qui a surtout, en plus de la défaite, les dirigeants ont remercié leur entraîneur, Olivier Dalloglio. Donc, même si tous les clubs, quels qu'ils soient, espèrent toujours, lorsque ça va mal, qu'en limogeant leur coach, les choses iront mieux, on sait que, de temps en temps, le petit électrochoc fonctionne. Là, ça va être très difficile pour Saint-Etienne. Ils sont un peu englués là, et je ne sais d'ailleurs pas qui est dans les tuyaux pour l'instant pour remplacer le coach. Mais il va leur falloir quand même un sacré bonhomme pour remettre les idées en place à tout le monde.
Ils sont 16e et surtout, ils sont sur une dynamique assez de 3 défaites et 4 défaites sur les 5 derniers matchs même. Donc, quand même très compliqué. 16e, premier barragiste, mais ça va être quand même très, très difficile.
Il reste encore beaucoup de matchs et j'ai peur que si le début d'année ne se passe pas bien... Que les carottes soient déjà cuites, même si on anticipe un peu en disant ça, mais ça va être très compliqué.
Et il y en a pour qui les carottes sont aussi en train de cuire fort, c'est Montpellier, qui a malgré tout pris un point ce matin contre Nice, enfin, cette nuit, mais qui est quand même déjà un petit peu décroché de 3 points par rapport au Havre qui est 17e. Compliqué là pour Montpellier.
C'est des clubs qui ont du mal parce que tous les ans c'est compliqué. Alors bien sûr que Montpellier a eu, il y a maintenant un certain nombre d'années, lorsque Loulou Nicolin était encore là, de belles années, c'est certain. Mais ça fait longtemps que c'est difficile. Ça fait longtemps que les années sont compliquées, se suivent et malheureusement se ressemblent un peu. Et comme toujours, que ce soit au foot ou au rugby d'ailleurs, à un moment donné ça finit par lâcher. Et je ne le leur souhaite évidemment pas, mais eux aussi risquent très gros. Alors c'est toujours embêtant pour l'histoire du foot, parce que ces clubs-là, effectivement, sont historiques. Et on n'aime pas trop les voir descendre. Et en général, quand ils descendent, ils ont du mal à remonter.
Ce qui serait cruel l'année des 50 ans du club.
Ce serait très embêtant, très très embêtant. Alors ça fera un peu de renouveau, bien évidemment, mais souhaitons quand même que ces clubs historiques, et on peut compter Nantes aussi dans ce lot-là, avec notre coach Antoine Camboire, bien sûr. Souhaitons qu'ils arrivent quand même à se maintenir. Mais le chemin va être douloureux, là.
Alors Nantes qui a justement perdu 4-1 contre Brest, donc belle semaine brestoise, mais Nantes, déjà finalement, il y a déjà 3 points entre Nantes 14e et Strasbourg 13e, hein, 14 points et 17 points. Donc on commence à avoir un petit wagonnet en queue de peloton entre Nantes, Angers, Saint-Etienne et Le Havre, et Montpellier un petit peu décroché, mais c'est en train de se dessiner petit à petit.
Nantes, malgré tout, présente quand même des motifs d'espoir, malgré tout. On a vu qu'ils ont fait un bon match contre Paris, justement. Donc il y a quand même des motifs d'espoir. Ils ont un très bon coach, et je dis pas ça parce que c'est quelqu'un de chez nous, mais ils ont un très bon coach qui sait lui aussi remettre les idées en place à son groupe.
Et qui a l'habitude de se battre.
Et qui a l'habitude, malheureusement, on aimerait bien qu'il arrête de se battre un petit peu pour le maintien. Ça lui ferait du bien, puis ça nous ferait du bien à nous aussi. Mais voilà, il a de l'expérience et voilà, je pense que ça va le faire quand même.
Bon, on va suivre ça avec attention dans les semaines qui arrivent. Hein, donc au classement, Paris en tête avec 37 points devant Marseille, Monaco 30 points. Et donc on l'a dit en queue de peloton, ça commence à chauffer pour Saint-Etienne, Le Havre et Montpellier. On va passer au rugby puisque Bruno Salvé nous a rejoint et s'est extirpé des bouchons nouméens du lundi soir. Bruno, bonsoir.
Bonsoir.
On va parler avec vous de la Champions Cup, de cette deuxième journée de Champions Cup, un tout petit peu moins bonne que la première puisque sur les 8 clubs engagés, On a 5 victoires et 3 défaites alors qu'on avait 6 victoires et 2 défaites sur la première journée. Mais on a encore Toulouse et Bordeaux et l'UBB qui font des démonstrations.
Oui, ben, ça reflète bien le niveau du championnat du top 14, hein, du championnat de France actuellement. Les deux équipes, que ce soit Toulouse et Bordeaux, dominent largement leur sujet. Bien que Bordeaux a eu du mal lors de cette première mi-temps et a réussi à s'imposer en deuxième mi-temps. Mais on a aussi La Rochelle qui a fait une très bonne performance également. Et Clermont qui, malgré la défaite contre le Leinster, qu'on rappelle quand même est l'équipe qui est la deuxième tenante qui a le plus de titres européens
derrière Toulouse.
Et qui est composée essentiellement
l'équipe d'Irlande.
Absolument, ouais. Et qui a tenu tête à cette équipe du Leinster qui n'était pas au mieux, hein, d'ailleurs, qui avait fait beaucoup d'erreurs inhabituelles de leur part. Et Castres aussi qui s'est imposé vraiment sur une erreur de l'équipe du Munster, hein, en fin de match, sur une pénale touche non trouvée et sauvée par Palis. Et Toulon. Donc on a sur les trois poules, les quatre poules pardon, que compose cette compétition, on a quand même trois équipes françaises qui sont premières sur les quatre poules. Quoi.
C'est ça. Donc si on rentre un peu plus dans le détail, on va commencer par Toulouse qui a donc passé 61 points à Exeter. Donc ils ne sont pas les plus gaillards de cette poule A, mais quand même 10 essais, 7 transformations. Donc tout le monde s'est mis au niveau. Hein. Il y a un doublé de Barassi, il y a un doublé de Lebel, un essai de Dupont pour démarrer, un Ramos qui met 7 transformations sur 10. Donc voilà, il y avait déjà eu beaucoup de points sur la première journée. Ils ont déjà un goal average monstrueux.
La question qu'on peut se poser, c'est qui peut battre le Stade Toulousain cette année. Mais c'est vrai que par rapport à l'effectif, il y avait un paquet de joueurs qui n'étaient pas sur la feuille de match. Donc c'est vrai qu'il y a un effectif à Toulouse qui est exceptionnel. Et Hugo Mola fait vraiment tourner l'effectif comme il faut et se sert au maximum de ses joueurs pour pouvoir en mettre certains au repos et puis selon l'adversaire essayer d'aligner la meilleure équipe. Mais c'est vrai que ce matin c'était vraiment une démonstration de rugby. Après Exeter, ils sont derniers du championnat anglais, donc ils sont pas très bien non plus en ce début de saison. Mais c'est vrai qu'on a vraiment assisté à du très très beau rugby, du rugby de mouvement comme on l'aime et qu'on aimerait bien, continuer à voir jouer, notamment lors de leur prochain déplacement, puisque Toulouse se déplace en Afrique du Sud, donc chez les Sharks. Et je pense que les Sharks auront du souci à se faire aussi.
C'est ça. Et justement, l'UBB rencontrera Exeter, se déplacera Exeter. Donc comme ça.
On ne se fait pas trop de soucis pour l'UBB parce qu'ils sont vraiment aussi sur cette dynamique. Avec une ligne de trois quarts hein, que certains ont appelé les galactiques, hein, avec les Penaud, Moefana, De Porter et bien sûr la fusée Louis Bielbarré. Donc c'est vrai qu'il y a vraiment une très très belle équipe de l'UBB cette année et qui est deuxième du top 14 et qui est deuxième là, derrière Toulouse dans cette poule une.
Dans cette poule A, ouais. Ouais. Si on devait comparer un petit peu Toulouse et l'UBB, là, la différence, elle se ferait pas au niveau du banc, la profondeur de banc ?
Sûrement, parce que quand on voit le banc toulousain, déjà sur la feuille de match, on a pratiquement que des internationaux, et puis quand le banc rentre, ce sont aussi des internationaux qui rentrent, donc c'est vrai que c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est exceptionnel, il y a un effectif qui est monstrueux, et voilà, ce qu'on espère, c'est qu'ils iront au bout cette année. Mais bon, on va voir avec les autres clubs français. Je pense que La Rochelle aussi a son mot à dire, parce qu'elle a montré de belles choses aussi.
En battant Bristol, voilà, dans la poule B, 35-7.
Oui. La Rochelle a sorti un gros match. Notamment, on a retrouvé des joueurs comme Antonio, qui était beaucoup moins présent lors des dernières rencontres, qui n'avait pas participé au test de l'équipe de France. Et puis là, vraiment, on l'a retrouvé dans une très bonne forme. Et une équipe de La Rochelle, comme des joueurs comme Aldrit aussi, qui reviennent à leur meilleur niveau. Et puis Oscar Gégou, bon, qui avait fait parler de lui pour d'autres choses, mais qui a été blanchi hein, maintenant et qui a été vraiment un pourvoyeur exceptionnel en touche lors de ce match et qui a qui a sorti vraiment une très belle partie. Ouais.
Alors, on en a parlé aussi un petit peu, donc Castres qui s'en sort miraculeusement sur le Munster dans la poule C, 16-14.
Oui, un gros combat, les Castrés qui n'ont rien lâché, même s'ils jouaient chez eux. Mais on a cette équipe de Castres qui est dure à jouer, et qui, bon, le Munster aussi, c'est une province irlandaise, hein, réputée aussi.
Qui est toujours au moins en quart de finale.
Absolument,
tous les ans.
Ouais, voilà. Et les Castrés donc, se retrouvent avec cette petite victoire à la quatrième place de cette poule 3, donc qualificative.
Hein, parce qu'on rappelle que les quatre premiers de chaque poule sont qualifiés pour les huitièmes de finale.
Pour les huitièmes, absolument, ouais. Donc Castres peut aussi tirer son épingle du jeu et peut-être arriver à au moins jouer les phases finales de cette compétition.
Bon, en revanche, ça va moins bien pour les deux clubs franciliens. Hein, le Racing battu par Sale dans la poule D 29-7 et le Stade français battu chez lui contre les Saracens 17-28.
Ouais, là, je pense qu'on peut faire, dire au revoir aux
deux clubs parisiens.
Oui, parce que bon, le Stade français, malheureusement, sont vraiment dans une dynamique négative depuis.
La saison est difficile.
La saison est difficile. Ils avaient limogé leur coach, Karim Ghezzald. Mais bon, ça n'a pas apporté d'électrochoc à l'équipe. Donc c'est une équipe qui a vraiment du mal cette année, autant en Coupe d'Europe qu'au niveau du top 14. Et le Racing, c'est incompréhensible vu l'effectif qu'ils ont. C'est pas parce qu'on a une somme d'individualité qu'on va pouvoir arriver à construire un bon collectif. Donc c'est vrai que le Racing a, quand on voit l'effectif et les moyens
dont
le club dispose, oui c'est ça, on se pose des questions, mais voilà, la mayonnaise elle a du mal à prendre et là je crois que c'est vraiment mal engagé pour le Racing. Il leur reste encore deux matchs pour pouvoir espérer sortir au moins quatrième. Là ils sont cinquième de la poule actuellement, donc affaire à suivre pour les Franciliens.
Oui, il y a encore quelques matchs, on n'était qu'à la deuxième journée, donc oui. Encore le temps de se rattraper. Et puis enfin Toulon donc, qui a battu Glasgow dans la poule D 30-29.
Oui, vraiment au forceps. Mais bon,
à la Toulonnaise presque.
À la Toulonnaise, ouais. Mais moi, j'avais vu leur match en Afrique du Sud la semaine dernière. Ils avaient été énormes pour aller s'imposer en Afrique du Sud face aux Stormers.
Première fois, je crois, en plus qu'un club français.
Oui, absolument. Et puis bon, je pense que avec Toulouse, oui. Qui va se déplacer chez les Sharks, je pense qu'il va les Sud-Africains ont du souci à se faire. Mais oui, Toulon qui a vraiment un bel effectif, qui retrouve des joueurs à un très bon niveau, Gabin Villière qui est virevoltant, le demi de mêlée, son nom m'échappe, Baptiste Serin qui vraiment est le maître à jouer de cette équipe.
Et puis on a oublie son âge d'ailleurs, j'ai plus son âge exact, mais il est plutôt jeune.
Ouais, il est plutôt jeune, mais il a vraiment l'expérience. Il a fait d'ailleurs une très belle tournée en Argentine cette année. Et puis des joueurs comme Olivon qui reviennent à leur meilleur niveau aussi. Donc
ils ont tous envie de retrouver aussi une petite place en équipe de France.
C'est ça.
Pas pour beaucoup. Donc
c'est que la concurrence est de plus en plus forte. Donc ça crée une émulation au niveau des joueurs de clubs. Et c'est tout bon pour le club de Toulon qui est premier aussi de la poule 4, donc on espère qu'ils iront loin eux aussi.
Eh bien, on va suivre ça avec attention. On va conclure cette page rugby donc en disant que la prochaine journée se déroulera le week-end du 11 janvier, donc on l'a dit, avec un déplacement de Toulouse chez les Sharks en Afrique du Sud et puis de l'UBB à Exeter, et donc on suivra ça avec beaucoup d'attention. Messieurs, on se retrouve après une page de publicité.
RRB, c'est la pub.
Le Tout Info avec Mivi.
Mivi, votre spécialiste vitrerie, miroiterie, solutions techniques, sécurité acoustique et solaire. Mivi, expert en verre depuis 1994. Mivi, le verre, c'est notre métier.
Info Facebook ou le 24 11 84.
Un an de salaire à gagner avec Nestlé.
Jusqu'au 31 décembre prochain, tente de remporter un an de salaire en bon d'achat à dépenser dans tes enseignes préférées.
Pour jouer, achète deux produits Nestlé, écris ton nom, prénom et numéro de téléphone derrière ton ticket de caisse et glisse-le dans l'urne en magasin.
Participe en ligne sur jeunestlé.nc/salaire. Règlement du jeu disponible chez Nestlé et chez Maître Citrita.
Jeu gratuit sans obligation d'achat.
RRB, on retrouve tout de suite la deuxième partie d'une semaine formidable avec Olivier Ledain et ses invités.
Une semaine sportmédable avec Canal+. Toujours plus de sport, toujours plus d'action, toujours plus d'émotions avec les offres Canal+.
Retour dans une semaine formidable et on va commencer cette deuxième partie d'émission avec une petite rétrospective comme on va en faire dans les semaines qui arrivent. Et il était assez logique de commencer cette rétrospective par les Jeux Olympiques de Paris 2024 qui ont eu lieu cette année, qui a été quand même l'événement sportif de l'année. Messieurs, j'ai envie de vous demander qu'est-ce que vous avez retenu, qu'est-ce qui vous a marqué de ces JO et aujourd'hui avec presque 4-5 mois de recul, qu'est-ce que vous retenez de ces Jeux Olympiques ? Éric Figuère, on va commencer par vous.
J'ai déjà envie de dire une organisation, alors au-delà des résultats qui sont évidemment ce qui nous intéresse en premier chef hein, quand on fait une compétition comme celle-là, mais pas seulement parce que c'était organisé en France bien évidemment, donc on était attentif quant à l'organisation, quant aux cérémonies d'ouverture, de clôture, etc. Et on a eu des cérémonies extraordinaires, exceptionnelles. Et puis on a eu aussi, surtout, on a eu des épreuves organisées dans la ville, dans la cité. Et ça, c'était vraiment, pour les avoir suivis, comme évidemment beaucoup d'entre nous, c'était juste magnifique de les voir courir, de les voir pédaler en plein Paris. C'était vraiment absolument fabuleux. Donc moi, je retiendrai cette organisation-là, les choix qui ont été faits. Dieu sait que beaucoup étaient sceptiques et moi aussi d'ailleurs.
Ces jeux avaient été très critiqués avant de démarrer.
Moi le premier, mais je faisais partie des sceptiques aussi. Et là, franchement, ça a été une réussite totale dès le début. Et les Américains vont essayer de faire mieux à Los Angeles, mais même si Trump est déjà monté au créneau pour faire mieux, mais je pense qu'ils ne feront pas mieux parce que ces jeux-là ont été exceptionnels et je crois que personne n'en refera des comme ça. Bien évidemment qu'il y aura d'autres choses qui seront organisées, d'autres cérémonies, bien évidemment. Et ils auront, je pense, beaucoup d'idées, mais ce qu'ils ont fait là, c'était tout bonnement exceptionnel. Et puis après, un résultat ensemble, un résultat ensemble formidable. Hein, l'équipe de France, au nombre des médailles, a fait un résultat absolument remarquable. Et puis après, bien sûr, il y a eu dans différentes disciplines des coups de cœur, des petites surprises, des confirmations, bien évidemment, avec les sports de référence. Il y a eu aussi quelques faillites, malheureusement aussi. Comme je dis toujours, les sportifs aiment être adulés, aimés. Mais malheureusement, il faut aussi dire quand ça ne va pas. Il y a quelques disciplines, par exemple, comme l'athlétisme, sans que ce soit une critique, évidemment, sur cette discipline. Et sur, encore moins sur ceux qui la gèrent et qui l'organisent et qui permettent effectivement aux athlètes d'être présents. Le cyclisme sur piste aussi, a eu beaucoup de difficultés. Et comme c'est... Alors, pas trop pour l'athlétisme, qui non plus ne nous donne pas des médailles non plus par dizaines chaque Olympiade, mais le cyclisme sur piste un petit peu plus.
Un petit peu plus.
Donc voilà, ce que j'irai en premier, quoi.
Alors, on parlait de coup de cœur. Bruno Salvé, quel serait votre coup de cœur sportif, même si je sais que vous aussi, on en a souvent discuté, l'organisation a été un fait marquant. Mais si on s'intéresse un peu plus à la partie sportive, quel est le premier souvenir qui vous vient à l'esprit ?
Bien sûr la médaille d'or du rugby à 7.
Ouais, c'est facile.
C'était la première.
Tu as raison, c'est la première.
C'est la première médaille d'or de la délégation française. Donc c'est vrai que c'est une.
Et elle était loin d'être évidente. Hein.
C'est sûr, mais bon, l'équipe a été bien préparée et bon après il y a eu une déception au niveau de l'équipe filles, féminine, ouais. Malheureusement, et Yolène qui n'a pas pu aller au bout de son rêve olympique, mais bon, on avait quand même une Calédonienne au sein de cette équipe de France. Mais je reviens sur ce que disait Eric. Moi, je resterais marqué par l'organisation de ces épreuves dans des lieux historiques, que ce soit le Grand Palais, que ce soit au Château de Versailles pour l'équitation, au Trocadéro pour le tournoi de beach volley. Je suis d'accord avec Eric. Faire mieux, ce sera difficile, voire même impossible, tellement ces jeux ont été conçus et ont mis en valeur le savoir-faire français et cette ville de Paris qui est magnifique et qu'on aime tous. Donc c'est vrai que là-dessus, je resterai sur ces images-là. Et bien sûr, en tant qu'ancien judoka aussi, c'est le titre de Teddy Riner et de cette équipe de France par équipe qui est allé chercher une victoire totalement improbable
sur le golden score
après les trois premières défaites dans le tournoi par équipe, et cette remontée fantastique et cette solidarité entre cette équipe. Donc c'est vraiment un des faits marquants que je retiendrai, avec bien sûr la médaille d'or du rugby à 7.
Bon, je vous lance sur des thèmes et puis vous me dites ce que ça vous inspire. Vous en avez déjà lancé quelques-uns. Donc si je vous parle des frères Lebrun.
Bien sûr, j'allais l'évoquer
on
aussi.
On peut en parler quasiment en premier à égalité, peut-être avec le rugby. C'est quand même assez rare que des pongistes soient à ce niveau-là. Et puis, ils sont maintenant adulés au Japon, enfin, adulés déjà en Chine, ce qui est évidemment le pays du ping, donc ça c'est exceptionnel. Maintenant, presque quasiment adulés au Japon. Ce qu'ils ont fait avec leur fraîcheur, avec leur enthousiasme, avec leur manière d'être, ça c'est tout bonnement fabuleux. Et puis, il y a eu des résultats derrière depuis les JO.
Exactement.
Donc, ça c'est encore mieux, puisque.
La confirmation.
Moi, je le dis toujours, faire un résultat. Évidemment, faire un résultat pendant les Jeux, pour un sportif, ça reste la référence. Mais n'en faire qu'un, moi, je suis toujours un petit peu sur ma faim. Moi, j'aime ces sportifs qui, au-delà de ces échéances, qui sont certes capitales dans leur vie et dans la vie du sport français, mais qui puissent derrière continuer à performer, valider leurs résultats, ça, c'est formidable. Et bon, les frères Lebrun, bon, ça a été magnifique, mais c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de Léon Marchand, mais il faut reconnaître quand même que ce qu'il a fait dans cette compétition de natation, 4 médailles d'or.
C'est forcément le premier nom qui vient.
Voilà,
qui
je suis presque sans voix, quoi. tellement ce qu'il a fait est extraordinaire. On l'a toujours vu souvent chez les Américains, hein, avec des nageurs hors normes qui étaient capables.
Ou les Australiens.
Ouais, ou les Australiens aussi. Et puis là, c'est un Français, quoi. Et puis, c'est évidemment pas lui faire injure de dire que, il n'a pas un physique non plus comme ça, de ce qu'on peut voir à la télévision, extraordinaire. Il est souriant, il est très simple, et c'est ce qui fait aussi sa renommée aujourd'hui. Et puis, c'est le meilleur nageur du monde. Hein. Je crois qu'on peut le dire, parce que quand on est champion olympique des quatre nages, on est le meilleur nageur du monde. Voilà, c'est indiscutable. Là, il se repose un peu. J'espère qu'il ne va pas se reposer trop longtemps et qu'il va vite se repréparer pour les prochains.
Allez, on continue dans la petite liste que je vous ai préparée. Sirena Samba Mayela, médaille d'argent sur le 100 mètres haies en athlétisme, puisqu'on parlait d'athlétisme tout à l'heure. C'était inattendu et c'était le vrai sourire de cet athlétisme où on attendait tellement Kevin Meyer qui n'a malheureusement pas pris part à ces Jeux. Mais du coup, ça a donné du baume au cœur à toute cette équipe de France d'athlètes.
On peut le voir sur différents plans. Alors, le plan positif, c'est que c'est une superbe surprise, une superbe course, une superbe athlète. Voilà, il faut
très
le
jeune
dire.
Aussi, très jeune, donc on espère que justement, ce que magnifique. Vous disiez, qu'il va y avoir des confirmations.
Voilà, et puis et là c'est compliqué en athlétisme pour avoir des confirmations. C'est très compliqué parce que l'athlète mondial est souvent dominé par les mêmes pays. Il y a un champ d'athlètes qui est très important. Donc c'est compliqué. Donc superbe surprise, magnifique athlète, vraiment, vraiment magnifique, mais la seule médaille. Et alors pour elle, ça ne change rien, puisque ce qu'elle a fait, elle l'a fait. Et donc ça, c'est vraiment un grand bravo. Pour l'athlétisme français, il faut qu'il y en ait d'autres.
La performance de Léon Marchand, pour revenir juste deux secondes dessus, elle est exceptionnelle aussi, parce que dans le sport français, on ne sait pas trop arriver favori dans une compétition. On l'a vu avec Kevin Meyer, malheureusement.
Il répond présent.
Et lui, il est arrivé avec un statut de favori et il a assumé son statut de favori jusqu'au bout en gagnant ses titres. Donc c'est la performance, elle est d'autant plus exceptionnelle que c'est d'arriver à être constant dans la performance et surtout être prêt au bon moment.
Et on a toujours tendance à voir, et Dieu sait qu'ils ont été énormes, ces grands champions d'autres pays, d'autres grands pays, qui sont dans notre mémoire, dans la mémoire collective, mais ces sportifs français, et on a souvent tendance à avoir, à les sous-estimer un petit peu, rentrent dans l'histoire du sport, et ça c'est géant.
Allez, je vous donne quelques exemples aussi de sports un petit peu moins populaires, mais tout aussi valeureux, le triathlon. Bien avec sûr. Cassandre Beaugrand, par exemple, l'escrime féminine, notamment avec Manon Apitibrunet au sable qui bat Sarah Balzer. Donc
beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotions.
Une finale 100% française. Si on continue dans le 100% français, on a un triplé français en BMX de course.
Ça, c'était exceptionnel. Hein,
vous vous souvenez de ces trois cyclistes qui arrivent à fond en même temps sur la zone d'arrivée. On a quand même en sport co du volley masculin qui est champion olympique, qui est quand même extraordinaire aussi. On passe pas loin en basket. Les Américains ont fait respecter la hiérarchie, mais c'était pas loin. On oublie aussi, mais il ne faut pas l'oublier, qu'en basket 3-3, on fait aussi médaille d'argent.
Médaille d'argent, oui.
Et puis, allez, messieurs, je vais vous laisser. J'ai choisi un athlète non français qui est Mondo Duplantis, qui bat le record du monde de la perche.
Comment aurait-on pu imaginer que derrière Boubka arriverait un Français, Lavillenie à l'époque, quand même, et puis arriverait cet homme-là, je ne sais pas comment le qualifier.
Un extraterrestre.
Extraterrestre, oui, c'est tout simple. Voilà, il arrive, il est lui aussi souriant, simple, il est très abordable, tout le monde l'adore, et il ne fait que repousser des limites. Alors, bien sûr, on sait que dans le sport, bien que certaines limites n'aient pas été encore repoussées, mais là, ce qu'il arrive à faire, je n'arrive pas encore à comprendre. Voilà, je suis à chaque fois, je prends un uppercut. Quand je le vois sauter, battre les records, alors on sait qu'à la perche, 1 cm égale beaucoup, dans tous les sens du terme. C'est pour ça qu'ils ne les battent qu'un centimètre par 1 cm. Mais maintenant, ces records-là sont associés au titre. Et c'est ce qui compte aussi. Voilà, les records, c'est bien, mais
Me fait penser à Boubka à l'époque, qui, quand il avait passé les 6 mètres, on avait dit non, mais c'est pas possible, il peut pas. Ouais, Et puis à chaque meeting, il rajoutait 1 cm, et 2 cm, et 3 cm. Et ben là, je pense que Duplantis, il a pas fini de nous étonner. Ouais.
Ah, il est parti sur des bases plus élevées que Boubka. Ah, oui. Boubka a mis du temps à être champion olympique, en fait. Et lui, il est déjà, et il est encore relativement jeune. Messieurs, on va terminer cette émission par vos coups de cœur, comme d'habitude. Éric Figuère, on va commencer par vous, votre coup de cœur de cette semaine.
On n'a pas parlé de golf, donc je vais mettre un petit peu le golf en avant et le golf calédonien, c'est important. Hein. Pour parler d'un petit jeune, le mettre un petit peu dans la lumière, c'est Sacha Corlower, qui est un joueur de Tina, qui est parti en France pour poursuivre sa progression. Il est dans le sud de la France, du côté de Marseille. Il est en vacances d'ailleurs sur le territoire. Et il va repartir, et il repartira normalement au milieu d'année prochaine pour les États-Unis. Donc il y a peut-être un nom à retenir et surtout à suivre. Là, il va peut-être se passer quelque chose.
Bon, eh bien, on va noter ce nom, on va essayer de le retenir et on compte sur vous pour nous en parler régulièrement.
Je n'y manquerai pas.
Bruno Salvé, votre coup de cœur de cette semaine ?
Pierre-Louis Barassi, donc trois quarts centre du Stade Toulousain, joueur très complet qui a livré une partie magnifique ce matin avec deux essais, deux passes décisives. Donc voilà, c'est pour moi c'est le coup de cœur de la journée.
Eh bien, merci à tous les deux d'avoir été présents sur cette émission et merci. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle semaine sportive.
Pour vivre le meilleur du sport, les plus grands matchs, les exclusivités, c'est seulement avec les offres Canal+. Canal+, le partenaire d'une semaine sportive sur Radio Rythme Bleu.